sur RFI, Adrien Delgrange pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Adrien.
Bonjour Edmond Sadaka, bonjour à tous. Dans votre journal des Amériques du 16 mai, aujourd'hui à la une, nous sommes à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle anticipée au Venezuela. Le président sortant Nicolas Maduro a décidé de remettre en jeu son mandat présidentiel dimanche prochain. Face à lui, deux candidats, dont un pasteur. Il s'appelle Javier Bertucci et c'est l'homme qui monte dans les sondages. Notre correspondant au Venezuela l'a interviewé. Le Guatemala emboîte le pas des États-Unis. Deux jours après l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, les autorités guatémaltèques ont décidé la même chose aujourd'hui.
Guatemala et Israël unidos por siempre.
Annonce le président Jimmy Morales. La revue de presse des Amériques avec Romain Lemaresquet dans un instant. Et puis, dans le journal des Outre-mer, nous irons notamment en Guadeloupe où de nouveaux militaires ont été déployés pour lutter contre une algue, l'algue sargasse. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La journée commence au Venezuela. Il n'y a plus qu'aujourd'hui et demain pour entendre des candidats à l'élection présidentielle. La campagne s'achève ce jeudi soir pour un vote prévu dimanche. Ce sont des élections présidentielles anticipées, voulues par le président sortant Nicolas Maduro. Il est confronté à de très graves crises, crises sociales, politiques et maintenant sanitaires. Face à lui, deux hommes sont actuellement candidats et parmi eux, si Henri Falcon fait figure de principal adversaire de l'actuel chef de l'État, il y a également un autre candidat sur qui il faut compter, Javier Bertucci, pasteur évangélique, un candidat qui monte dans les sondages. Selon un récent sondage de l'Institut Delfos notamment, Javier Bertucci rassemblerait 19% des intentions de vote parmi les électeurs vraiment sûrs de voter dimanche prochain, à 5 points seulement d'Henri Falcon. Notre correspondant au Venezuela, Julien Gonzalez, l'a interviewé à Caracas. Il lui a demandé, alors que Javier Bertucci était jusqu'à présent pasteur, pourquoi a-t-il décidé de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle vénézuélienne ?
C'est une décision guidée par l'amour. D'abord parce que cela fait 10 ans que je fais ce travail dans le social. Il y a 2 ans, j'ai commencé à voir que les enfants n'allaient plus à l'école parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. J'ai vu des mamans désespérées qui me demandaient de faire quelque chose et j'ai vu pointer une clameur petit à petit. L'an dernier, j'ai vu des gens en larmes qui me suppliaient de me porter candidat parce qu'ils n'en pouvaient plus. J'ai alors réalisé que les changements que nécessite la société vénézuélienne ne pouvaient pas avoir lieu dans la sphère religieuse, mais bien dans l'arène politique. Et c'est en février dernier que j'ai décidé de me lancer. Maintenant, ma priorité, si je suis élu, j'ouvrirai immédiatement le canal humanitaire. Je veux que 2 semaines après mon investiture, nos ports soient remplis de bateaux contenant de la nourriture et des médicaments. L'aide humanitaire, c'est l'urgence.
En 2016, votre nom est apparu dans le scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Est-ce que cette accusation est fausse et est-ce que cela vous a nui dans votre campagne ?
Je suis le seul qui ait donné une conférence de presse et qui ait fait face à ce que l'on a nommé ces soi-disant Panama Papers. J'ai clarifié les choses, je peux l'assurer, toutes ces accusations sont absolument fausses. En tant que pasteur, ça a été terrible à supporter. Quand je me suis présenté comme candidat à la présidentielle, c'est la première chose que l'on a dite sur moi. Mais cela m'a aidé parce que le buzz autour de cette affaire a permis de me faire connaître auprès des gens qui ne me connaissaient pas. Donc si je fais un bilan, cela n'a pas été facile pour moi. Mais mes conseillers ont applaudi cette histoire en disant que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Nous avons ensuite rétabli ma réputation, puis nous avons développé d'autres sujets d'information. Et les gens ne sont plus revenus sur cette histoire passée. Cela a finalement été une bonne chose pour moi.
Parmi vos propositions, vous avez notamment annoncé que si vous êtes élu président, le pays devra se préparer à écouter tous les dimanches à la télé un message de salut. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que la politique et la religion ne se mélangent pas et que cette proposition va en particulier contre la liberté de culte ?
Je peux comprendre cette crainte d'une radicalisation religieuse, mais l'Église a une longue histoire dans ce pays et nous n'avons jamais été radicaux. Dans ce pays, nous avons un grave problème. Notre société est malheureusement décomposée. Et la raison, c'est le manque de valeur de notre société. Aujourd'hui, la vie d'une personne vaut une paire de chaussures ou un téléphone portable. Une personne peut être tuée parce qu'elle n'a ni chaussures ni téléphone portable. Il faut s'attaquer à cette perte de valeur. Dans mon message du dimanche, je ne vais pas chercher à convertir les gens à la religion ou à leur imposer de changer de religion. Mais je veux que tous les dimanches, le président en tant qu'exemple principal du pays, transmette des valeurs au sein de la société.
C'était une interview de Javier Bertucci, candidat à l'élection présidentielle anticipée de ce dimanche au Venezuela. Il répondait aux questions de notre correspondant à Caracas, Julien González. Romain Lemaresquet, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Avec vous pour la revue de presse des Amériques, Romain, à la une ce mercredi, les élections au Venezuela avec l'Assemblée nationale qui demande purement et simplement l'annulation du scrutin.
Oui, c'est-à-dire dans les pages d'El Universal, les députés de l'Assemblée nationale, qui n'est plus reconnue par les autorités, ont demandé au Conseil national électoral, le CNE, de suspendre les différents scrutins prévus dimanche, dont l'élection présidentielle. Des députés qui appellent également la communauté internationale à accentuer les pressions contre le gouvernement de Nicolas Maduro, détaille le quotidien.
Alors pendant ce temps-là, les autorités vénézuéliennes préparent le scrutin.
Oui, selon Ultimas Noticias, journal proche du pouvoir, près de 3000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour garantir la bonne tenue du scrutin. Par ailleurs, la vente d'alcool sera interdite à compter de ce vendredi, et ce jusqu'à lundi prochain, détaille le quotidien qui reprend les déclarations de Néstor Reverol, ministre vénézuélien de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix.
Osorno 107.3 FM.
Depuis ces derniers mois, voire ces dernières années, 2 à 4 millions de personnes ont fui le Venezuela. Principale cause de cet exode, l'insécurité, les prix des matières premières qui s'envolent et puis les pénuries de nourriture et de médicaments. En Amérique latine, le Chili, à environ 5000 km au sud du Venezuela, est une des principales destinations choisies par les Vénézuéliens. Des hommes et des femmes attirés par la stabilité économique du pays et son bon niveau de développement. À 4 jours de l'élection présidentielle au Venezuela, Justine Fontaine est allée à leur rencontre à Santiago du Chili.
C'est l'une des conséquences de l'immigration vénézuélienne au Chili. Le baseball a connu un essor spectaculaire à Santiago. Le championnat amateur est passé de 8 à 24 équipes en seulement 2 ans. Ce samedi, les Venezuela juniors affrontent l'Athletic Verde pour se qualifier pour la demi-finale d'un tournoi local. Ronald Torres, 30 ans, fait partie de l'équipe des Venezuela juniors. Il a quitté son poste de professeur de sport il y a 2 ans pour s'installer au Chili.
La situation n'a fait qu'empirer au Venezuela et la politique menée a été catastrophique depuis un certain temps déjà. J'ai donc décidé de partir parce que les jeunes comme nous n'avons plus d'avenir là-bas. On ne peut pas former une famille, par exemple. Je travaille comme serveur. En réalité, je voudrais travailler dans le sport parce que c'est ma passion. Mais ça va, je gagne suffisamment pour aider ma famille au Venezuela et vivre tranquillement ici.
Comme tous les membres de son équipe, il ne votera pas dimanche. Persuadé que le scrutin est déjà joué et tout acquis à Nicolas Maduro, le président sortant. Grâce à leurs diplômes et parce qu'ils sont bien vus ici au Chili, la plupart des Vénézuéliens s'en sortent généralement mieux que beaucoup de migrants qui tentent leur chance ici. Mais ils arrivent dans des conditions de plus en plus précaires.
Station terminal, Plaza de Puente Alto.
Le pasteur évangélique Barnabé Bazan le sait bien. Il y a 1 an et demi, dans son église de briques et de broc installée à Puente Alto, en banlieue de Santiago, il a commencé à accueillir des Vénézuéliens qui n'avaient nulle part où dormir.
Nos pidieron ayuda como iglesia y nosotros los veíamos llegar a ellos.
Ils nous ont demandé de l'aide en tant qu'église. Et nous les avons vus arriver avec des enfants, des bébés, des femmes enceintes et toute une vie qui se résume à une valise. En tant qu'église, on ne peut pas leur fermer la porte. Donc on a décidé de construire des chambres avec des panneaux de bois, de la tôle. On est allé récupérer des matelas le soir dans les rues pour que les gens puissent dormir un peu plus confortablement.
Aujourd'hui, 40 de personnes vivent ici dans des conditions très précaires, comme Jorge González, 35 ans, qui vient de rentrer du travail. Il est arrivé au Chili par la route juste après que le gouvernement a annoncé qu'il exigerait désormais un visa d'entrée pour tous les Vénézuéliens.
Del mes que tengo 15 días trabajando.
Je suis arrivé il y a 1 mois et je travaille depuis 15 jours, grâce à Dieu. Et ça n'a pas été facile de trouver du travail. D'ailleurs, en ce moment, je travaille dans l'illégalité. Je n'ai pas de contrat, ni rien de tout ça. Parce que quand on n'a pas de papier, personne ne veut nous donner du travail. Et j'espère que les choses changeront au Venezuela, parce que vraiment, les élections sont une vaste supercherie.
que esas elecciones son fraudulentas.
Jorge ne croit donc pas que voter dimanche changerait quelque chose. Et en réalité, même s'il le souhaitait, il ne pourrait pas voter. C'est ce qu'explique Luis Zurita, président d'une association de Vénézuéliens installée au Chili.
La loi prévoit que ceux qui ont une résidence légale à l'étranger peuvent être inscrits sur les listes électorales. Mais le consulat a demandé un titre de séjour longue durée et beaucoup de gens n'ont pas pu s'inscrire sur les listes. Il y a clairement une intention de limiter le droit de vote des Vénézuéliens de l'étranger.
Justine Fontaine, Santiago du Chili, RFI.
Et toutes ces informations sur le Venezuela, si elles vous intéressent, vous pouvez retrouver notre dossier Amérique sur le www.rfi.fr.
RFI, les voix du monde.
Le Guatemala laisse la priorité aux États-Unis pour faire le lendemain la même chose. Autrement dit, deux jours après les États-Unis, c'est le tour du Guatemala de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et à chaque fois, c'est un déménagement lourd de sens et de conséquences. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre israélien et du président du Guatemala. À Jérusalem, Michel Paul.
À aucun moment il n'a été question des événements sanglants à Gaza. Une cérémonie modeste, les nouveaux locaux de l'ambassade du Guatemala sont situés dans un parc technologique de la partie occidentale de Jérusalem. Radieux, le premier ministre israélien a indiqué que le Guatemala serait la première étape de son prochain périple en Amérique latine.
Nous avons inauguré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem il y a deux jours. Et ce n'est pas une coïncidence que le Guatemala ouvre son ambassade à Jérusalem parmi les premiers. Vous êtes toujours parmi les premiers.
De son côté, le président guatémaltèque Jimmy Morales s'est félicité des relations amicales entre les deux pays et il a proclamé son intention de renforcer notamment les liens économiques.
Il y a 70 ans, nous avons décidé d'appuyer et d'avoir des liens amicaux avec Israël. Et aujourd'hui, nous le montrons à nouveau. C'est une décision souveraine qui nous permet d'être ensemble ici pour proclamer Israël et le Guatemala à tout jamais unis.
Unidos por siempre.
À signaler qu'à l'origine, l'ambassade du Guatemala se trouvait à Jérusalem. En 1980, elle avait été transférée à Tel Aviv après l'adoption par la Knesset d'une loi réaffirmant le statut de capitale de la ville de Jérusalem. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Romain Lemaresquier pour la suite de la revue de presse des Amériques. Romain, la presse guatémaltèque fait-elle écho de l'inauguration de cette nouvelle ambassade à Jérusalem ?
Eh bien, une inauguration nettement plus discrète que celle de lundi dernier, si l'on en croit la presse guatémaltèque. L'ouverture de cette ambassade à Jérusalem a été saluée par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il a d'ailleurs annoncé, selon Prensa Libre, qu'une rue située non loin de l'ambassade porterait bientôt le nom du Guatemala. Jimmy Morales, le président guatémaltèque, a quant à lui rappelé les liens qui unissent les deux nations et selon lui, l'ouverture de cette ambassade va permettre de renforcer les alliances stratégiques et la coopération entre ces deux pays amis.
Au Nicaragua, à présent, nous en parlons depuis le début de la semaine, c'est aujourd'hui que doit débuter le dialogue national qui doit permettre de mettre un terme à cette crise sociale.
Et de déterminer également les responsabilités suite à la mort de plus de 40 personnes lors de manifestations il y a près d'un mois, des manifestations qui avaient été durement réprimées. Le journal Hoy confirme le début de ce dialogue national ce matin à 10h, heure locale.
Même si, Romain, le gouvernement n'a pas rempli les conditions exigées pour lancer les débats.
Oui, l'église nicaraguayenne d'ailleurs appelle encore les autorités à stopper la répression qui serait toujours d'actualité dans certaines régions du pays. Le gouvernement, des représentants du secteur privé, de la société civile et des étudiants ainsi que la conférence épiscopale nicaraguayenne qui fera office de médiateur participeront à ces discussions selon Hoy, qui ne cite pas la CIDH, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui devait pourtant initialement participer à ce dialogue national.
Alors avant d'aller au Pérou, Romain, tout autre sujet. Hier se tenait la première réunion à Bruxelles entre l'Union européenne et Cuba suite à l'accord de partenariat conclu en novembre dernier entre les deux parties.
Oui, et cette première réunion a permis la signature d'un accord pour un projet bilatéral de promotion des énergies renouvelables à Cuba pour 18 millions d'euros, nous apprend ce matin Granma. Selon Juventud Rebelde, l'Union européenne prévoit également cette année de financer un programme de soutien à la sécurité alimentaire à Cuba avec une contribution de plus de 19 millions d'euros, comme l'expliquait Federica Mogherini hier à l'issue des discussions dans des déclarations reprises par Granma. Avec cet accord, l'Europe met fin à une anomalie. Il faut préciser que Cuba était jusqu'à hier l'un des seuls pays à ne pas avoir de lien contractuel avec l'Union européenne, alors que cette même Union européenne est le premier partenaire commercial de Cuba.
La justice péruvienne interdit à l'ancien président Alberto Fujimori de quitter son pays.
Oui, une interdiction applicable pour les 18 prochains mois, selon le quotidien La Repubblica. Alberto Fujimori fait toujours l'objet d'une enquête dans une affaire de crime d'État, rappelle le quotidien. Il n'a pas le droit de quitter Lima, la capitale. C'est le procureur de la République qui a fait la demande d'une telle mesure, de peur que l'ancien dirigeant ne cherche à s'exiler. Une mesure qui ne fera pas l'objet d'un appel, selon El Comercio, qui cite l'avocat d'Alberto Fujimori, qui explique qu'il n'a jamais été question de déplacement à l'étranger.
Et puis nous restons au Pérou, Romain, avec les suites de la suspension par le tribunal arbitral du sport du capitaine de l'équipe de football du Pérou, qui ne pourra donc pas participer à la Coupe du Monde.
Paolo Guerrero avait été condamné à 8 mois de suspension et avait décidé de faire appel de cette suspension devant le tribunal arbitral du sport, le TAS. Ce dernier, il y a deux jours, a au contraire alourdi la peine à 14 mois de suspension, détaille ce matin Pérou 21.
Une décision, Romain, vécue comme un camouflet par les Péruviens.
Oui, notamment sur Twitter, une décision vécue comme un camouflet, comme vous le disiez, par les Péruviens qui crient au scandale et n'ont pas hésité à s'en prendre aux TAS sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, raconte le quotidien Perú 21. Le problème, c'est que le compte @TAS n'était pas celui du tribunal arbitral du sport, mais d'un certain Tasuku Okawa, un citoyen japonais, qui a dû faire face à une déferlante d'insultes et de critiques, et preuve que cette affaire prend une dimension incroyable. Hier, le président péruvien a reçu Paolo Guerrero pour lui apporter son soutien dans l'épreuve qu'il traverse, précise encore ce matin Pérou 21.
Merci Romain. Romain Lemaresquet pour la revue de presse des Amériques sur RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec à présent Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Où de nouveaux militaires en Guadeloupe ont été déployés pour lutter contre les algues sargasses.
Oui, face à l'ampleur des dégâts, des militaires du RSMA ont été déployés hier matin à Capesterre-Belo pour renforcer les moyens locaux dans le ramassage de ces algues brunes qui viennent s'échouer en masse sur les plages. Une opération coordonnée avec les élus locaux, comme l'explique le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, Jean-Michel Jumez. Il est au micro de Guadeloupe la Première.
Le message qui est apporté au travers de cette opération, c'est de montrer que l'État est dans l'action. Une action partenariale, puisque les moyens qui vont être mis en place par le RSMA, c'est 30 militaires qui vont venir en soutien des moyens qui ont déjà été mobilisés par le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes et la commune. Et donc c'est toute cette action qui va être amplifiée avec l'arrivée du RSMA. Et cette action, elle est également totalement concertée, puisque le RSMA va se déployer avec un plan de gestion qui a été établi à l'occasion du déplacement d'un de mes collaborateurs sur site et qui va permettre de bien coordonner l'ensemble des interventions des acteurs.
Les habitants de 19 quartiers de Bemao en Guadeloupe ne peuvent plus consommer l'eau de leur robinet. Elle est impropre à la consommation. C'est ce que démontrent des analyses réalisées par l'Agence régionale de santé. L'ARS qui procédera à des analyses complémentaires aujourd'hui dans l'attente de ces résultats. Il est recommandé aux populations concernées de ne pas boire l'eau du robinet et de ne pas l'utiliser pour cuisiner ou se brosser les dents. Autre mesure de précaution en direction des Guadeloupéens, la préfecture préconise la prudence aux abords du sommet de la Soufrière. L'observatoire volcanologique et sismique a constaté une augmentation des concentrations chimiques dans les fumerolles au sommet du volcan. La préfecture précise que le taux enregistré est même dangereux pour les randonneurs qui s'approchent de ce sommet. Des scientifiques et des bénévoles qui travaillent ensemble pour protéger l'écosystème en Guadeloupe. Le nom de l'opération, la route du corail. Elle consiste à effectuer des sessions de plongée pour évaluer l'état de la santé de près de 4000 m² de récifs coralliens. Il s'agit d'un programme international qui est décliné depuis 10 ans dans le département. Franck Mazéa, chargé de la coordination de ce programme.
Ça fait longtemps que les scientifiques tiennent la lettre d'alarme sur l'état des récifs coralliens qui se dégradent malheureusement de plus en plus. On a déjà 25% des récifs qui sont morts dans le monde et encore une cinquantaine de pourcents qui sont dans l'état critique. Et ça ne fait que s'aggraver. Et donc l'idée, c'était de mettre en place un suivi pour impliquer la population. Donc c'est d'abord un suivi scientifique, certes, mais c'est surtout de la science participative où ce sont des personnes lambda qui doivent évidemment savoir plonger quand même, c'est le minimum, et qui sont intéressées par ça. Donc on leur fait un cours de 3 heures le matin, on va sous l'eau, on leur explique les protocoles, ont été définis pour que tout le monde, en 2-3 heures de formation, arrive à savoir si le corail est vivant, s'il est mort, si là, si on arrive à faire une éponge, tel invertébré, tel macroalgue, voilà. Donc, on ne va pas jusqu'à l'espèce, mais on détermine la nature et la qualité de ce qu'on voit sous l'eau.
Excellente journée.
Merci beaucoup.